Et je vous invite à vous lever. Non, c'est pas vrai, vous pouvez vous rasseoir. Bonjour à tous, à toutes. Je vais demander à Sylvie si tu veux bien lancer les transparents, comme on disait avant. Pour ce dimanche, je voudrais démarrer donc dans la feuille de route que Norbert nous a présentée dimanche prochain. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous ai... Dimanche dernier, voilà. Merci. Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Et donc, dimanche dernier, Norbert nous a présenté un petit peu la feuille de route pour notre assemblée, pour notre désir de croissance, à la fois à l'intérieur et puis à l'extérieur. Et je voudrais commencer ce matin par rappeler donc les fondements. Nous sommes appelés à être des... Ah oui, il y en a qui devinent, c'est bien. Vous serez mes témoins. C'est la parole de Jésus qu'il prononce sur nous. C'est à la fois une invitation et une proclamation. Et je voudrais commencer ce matin par les fondements, les fondations de ces quelques mots qui peuvent peut-être changer toute notre vie. Alors, ça a évidemment une relation avec, par exemple, le fait de célébrer un siècle d'une famille d'église. Cette relation, c'est que si nous sommes appelés à être des témoins, c'est que nous sommes aussi au bénéfice des témoins qui ont été avant nous et qui ont perpétué d'année en année, de génération en génération, de siècle en siècle, le témoignage de Jésus. Et fêter 100 ans d'une famille d'église, c'est aussi participer à la célébration de l'Évangile. Alors donc les fondations, les fondements de notre rôle de témoin. Et je voudrais commencer par lire deux passages qui sont des passages fondamentaux dans l'Évangile de Matthieu. Vous allez voir, il y a de fortes chances que vous les connaissiez déjà. Alors je vous propose de lire ensemble Matthieu 4. Nous sommes au tout début du ministère de Jésus. Jésus vient de recevoir le baptême par Jean le Baptiste. Et puis voilà ce qui se passe. Hop, voilà. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il partit en Galilée. Il quitta Nazareth et il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac de Galilée. Et dès ce moment, Jésus se mit à proclamer « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée leur père et ils réparaient leur filet. Jésus les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent. Donc ça, c'est au tout début du ministère de Jésus. Et vous connaissez ce passage, l'appel des quatre premiers disciples. « Venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et maintenant, on va aller à la toute fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Jésus vient de ressusciter et il vient demander à ses disciples de retourner en Galilée. Et alors, on lit ensemble à partir du verset 16. « Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples, Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors évidemment, fondamentalement, nous les croyants, nous sommes appelés par Jésus un disciple. Qu'est-ce que c'est que ce mot de disciple ? Alors Jésus, il n'a pas inventé quelque chose, hein. Il a repris quelque chose qui existait à son époque. Et à son époque, il y avait une forme de transmission. On était un disciple d'un maître. Et un disciple, peut-être le mot, dans notre français de moderne, le mot qui se rapprocherait le plus, c'est le mot d'apprenti. Quelqu'un qui est en apprentissage. Quelqu'un qui apprend en regardant faire, en écoutant et qui met en pratique. Alors on a de la chance en France parce que la formation par l'apprentissage reprend énormément d'essor et on se rend compte combien c'est important. Imaginez un chirurgien qui, pendant ses études, n'aurait fait que lire des bouquins, n'aurait fait que entendre des choses théoriques. Oui, alors quand tu vas opérer une appendicite, tu découpes le ventre comme ça, tu prends les ciseaux, etc. Et vous êtes le patient et vous allez vous rendre chez le chirurgien qui, ben voilà, c'est la première fois, il va opérer, ça tombe bien, c'est sur vous que ça tombe. Voilà. Heureusement que les études de médecine sont faites avec beaucoup de stages à l'hôpital, avec des choses pratiques. Heureusement que les études pour être carrossier se passent aussi en apprentissage, etc., etc. Et dans beaucoup de domaines, on apprend en mettant en pratique. Et c'est comme ça que Jésus a prévu aussi que nous soyons ses apprentis, ses disciples, en le regardant faire, en imitant. C'est comme ça que ça marche. Ce que Jésus nous apprend aussi, c'est que en suivant le maître, on va faire ce qu'il fait lui. Et qu'est-ce que fait Jésus ? Ben, il fait des disciples. Donc nous sommes appelés à faire des disciples, nous aussi. Et donc, les disciples, les apprentis, Jésus dit, vous allez avoir une relation toute particulière avec moi. Vous n'allez pas être seulement des croyants qui vont avoir une pensée, des petits Français cartésiens qui vont avoir des connaissances théoriques sur quelque chose. Non. Mais on va se mettre en place dans une relation très particulière. Et c'est ce verset de Matthieu 12. Hein. Vous connaissez ce passage, à un moment donné, la mère et les frères de Jésus, ils disaient, bon, notre Jésus, il va un peu trop loin, ou on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Bon. Et ils viennent le récupérer. On lui dit, bon, maintenant tu rentres à la maison, et puis tu vas... C'est ça qui se passe. Et Jésus déclare, voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. Donc un disciple, c'est plus qu'un apprenti, c'est vraiment un choix de Jésus pour avoir une relation personnelle, intime, constructive, bien sûr fondée sur la grâce et la vérité, mais c'est une relation qui ressemble à celle d'une famille, frère, sœur, mère. Alors peut-être certains d'entre nous vous recherchez cette forme de relation avec Jésus. Ben voilà une indication. Devenez son apprenti. On voit au travers de ce que Jésus a vécu avec ses disciples que les apprentis, ils sont aussi des envoyés, des représentants. À un moment, vous vous rappelez, Jésus, il envoie ses disciples deux par deux. Il les renvoie un petit peu plus tard, etc. Ils vont faire des missions pratiques, des stages, des travaux pratiques. Et puis, ça n'a pas concerné que les 12 ou ceux qui étaient avec Jésus, mais Jésus, dans sa prière, dans Jean 17, il dit « Je te prie aussi, mon Dieu, mon Père, pour ceux qui viendront après, et je les envoie comme tu m'as envoyé. » Et donc, nous avons chacun un rôle à jouer. Et la question se pose à chacun de nous, à chaque période de notre vie. Acceptes-tu d'être l'envoyé, le représentant de Jésus, là où tu vis ? Paul va utiliser un terme encore plus fort, ambassadeur. Waouh, là on monte d'un cran. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays. Et le rôle principal de l'ambassadeur, c'est de faire de la diplomatie pour éviter les guerres, pour rétablir la paix. Et donc notre rôle d'envoyé, de représentant, c'est pour rétablir la paix entre Dieu et notre entourage. Paul dit qu'on est ambassadeur de la réconciliation avec Dieu. Alors, je ne sais pas quel a été votre passé dans ce domaine. Moi, le mien, il n'a pas toujours été très glorieux. Je pense que j'ai plus d'occasions ratées de témoignages que d'occasions réussies. Mais peu importe, la vraie question qui se pose aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui le jour de Dieu, acceptes-tu à partir d'aujourd'hui d'endosser ce rôle d'envoyé, de représentant, d'ambassadeur, d'entrer dans le travail de Jésus ? Jésus a besoin de tes pieds pour aller vers des personnes. Jésus a besoin de tes mains pour accueillir et pour agir. Jésus a besoin de tes oreilles pour écouter. Jésus a besoin de ta bouche pour parler. Donc Jésus forme des apprentis. On connaît ça, hein, ça nous paraît tellement évident, mais c'est révolutionnaire. Jésus vient pour transformer le monde entier, et au lieu de s'occuper du monde entier, il choisit 12 personnes, et il s'occupe que de ces 12 personnes. Il prend des apprentis, de manière permanente et continuelle, le jour, la nuit, avec des enseignements à mettre en pratique qui transforment la vie des apprentis. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous de se rappeler que notre foi, ce n'est pas juste une adhésion intellectuelle à des idées, même si elles sont très belles, mais que notre foi, c'est mettre des choses en pratique, c'est imiter Jésus. Lorsque Jésus envoie ses disciples deux par deux, ils font exactement ce que Jésus faisait juste avant, c'est-à-dire qu'ils guérissent les malades, ils chassent les démons, ils annoncent la bonne nouvelle. Jésus les invite à faire des expériences. Et peut-être c'est ça qu'il faudrait nous remettre en tête, c'est que Dieu nous attend pour faire des expériences. Et si nous avons envie de vivre des choses avec Dieu, il suffit de lui dire « Hé Dieu, on y va ?» Et lui te dira « Ben, je t'attendais, mais on y va. » Alors dans notre foi, au XXe siècle, des fois, j'ai l'impression qu'on se focalise un petit peu trop sur l'enseignement du salut. Alors je sais que tous les docteurs et les théologiens dans cette salle vont commencer à sortir leur petite boîte de tomates. Mais on a tendance à expliquer que pour être sauvé, il faut que tu croies en quelque chose. Il faut que tu croies en la mort de Jésus sur la croix. Oui, bien sûr. Mais on met souvent de côté l'aspect pratique. Alors j'ai remis ce verset hein, qu'on connaît bien. Hein, par exemple, j'ai mis en gras. Hein, Jésus dit « Allez vers les gens de toutes les nations, faites deux de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. » Bon, c'est clair. Mais je crois que nous avons pris une mauvaise habitude. Nous avons un petit peu dévié. C'est valable pour les adultes comme pour les enfants. Comment transmettons, nous, l'évangile à nos enfants dans l'Église ? Est-ce que c'est que des choses à enseigner? Est-ce que c'est que des idées à comprendre et à croire? D'ailleurs, il n'y a rien qui vous choque là dans le verset que j'ai mis en gras? Il n'y a rien qui manque? En fait, je vous ai fait un petit piège, j'ai retiré trois mots. J'ai retiré trois mots parce que c'est très peut-être révélateur de notre conception. Jésus ne nous donne pas d'enseigner des choses qu'il a indiquées, mais il nous demande d'enseigner à obéir, à mettre en pratique les choses qu'il nous a commandées. Et ça fait une grande différence. Ce n'est pas seulement la repentance et le salut auquel on va adhérer, mais c'est entrer dans son école, devenir ses disciples, ses apprentis, vivre sous l'autorité du maître. Toi, suis-moi. Vivre avec lui et pour lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours ». Ce n'est pas une option. Hein. Il est là tous les jours et nous le savons bien. Et donc, on se rend compte qu'être témoin, ce n'est pas seulement parler de notre foi pour que les gens se mettent à croire, mais ça va plus loin. Jésus nous appelle à former des disciples, pas seulement des nouveaux croyants. Sinon, on s'arrête trop tôt. Alors, bien sûr, je ne vais pas parler de ça toute la matinée, et on verra ça tout au long du trimestre, hein, comment ça se passe, comment faire, comment aiguiser nos capacités, etc. Mais voilà. Vous voyez que on pourrait dire que l'évangile de Matthieu, il est construit là-dessus. Le point de départ, c'est Jésus qui démarre son ministère en disant « Changez de vie, car il y a quelque chose de super qui vient d'arriver. Le royaume de Dieu est tout proche. » Et à la fin de l'évangile, Matthieu donne cet appel, hein, ce qu'on appelle la grande mission, l'appel à faire des disciples. Alors moi, je trouve que ça nous rappelle aussi un petit peu le rôle d'une communauté telle que la nôtre. Alors, je vais être un peu provocant, mais vous me connaissez, c'est par... Donc, notre communauté, ce n'est pas simplement un hôpital pour soigner les bobos. Ce n'est pas seulement le club des gens qui se retrouvent pour chanter des beaux chants le dimanche matin. Mais il me semble que la communauté chrétienne, c'est le lieu de la formation, de l'apprentissage. On vient à l'école, tous ensemble, pour après repartir vers les nations, vers les autres, non seulement pour leur faire connaître la bonne nouvelle du salut, mais aussi pour leur apprendre ce que ça veut dire que suivre Jésus. Il faut les mettre sur la voie, il faut les accompagner, il faut les amener au baptême. Ah, tiens, baptême. Tiens, Jésus, il en parle, ça. Baptisez-les. Mais qu'est-ce que c'est que ça, alors? Pourquoi c'est si important? Est-ce que c'est juste un symbole? Ou est-ce que c'est une étape de l'intégration dans la communauté des croyants? Le baptême, il y a un avant et il y a un après. Si tu crois en Jésus et que tu n'es pas baptisé, ben, tu n'es pas encore rentré dans la formation d'apprenti. Parce que apprenez-leur à obéir. Si tu n'es pas encore baptisé, c'est que tu n'as pas encore tout à fait fini d'obéir. Commence donc par obéir, passer par le baptême. Donc on voit que Jésus aussi a mis en place un mouvement qui va se perpétuer dans le temps. Un groupe de 12 personnes, bon, ils finissent à 11, qui sont envoyés dans le monde, et chacun va parler à d'autres, et ces autres vont parler à d'autres, et c'est comme ça que la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à nous. Et figurez-vous que c'est comme ça que ça va aussi continuer en 2022. C'est parce que des gens vont parler à d'autres que ces autres vont devenir des apprentis de Jésus. Et donc, de génération en génération, les disciples font des disciples qui font des disciples. Et Jésus a laissé quelque chose donc qui est reproductible. Et on pourrait dire que l'Église est à la fois le fruit de ce mouvement que Jésus a créé, et puis aussi le point de départ. Alors je vous laisse réfléchir à ça, hein, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Alors voyons un autre point fondamental. Quel est notre rôle de témoin ? Alors, évidemment, c'est tout simple. On a un message à annoncer. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que c'est un message plutôt valable. Dieu s'est approché de nous. C'est ça que Jésus disait. Hein, le royaume de Dieu s'est approché. Ça vaut le coup. C'est pas une morale, un ensemble de doctrines. Non, c'est Dieu qui s'approche. Et il s'approche pourquoi ? Pour qu'on puisse le rencontrer. Et en plus, c'est un Dieu qui est bon, qui est bienveillant et qui est de bonne humeur. Notre rôle de témoin, c'est aussi de parler d'une alliance. Dieu propose une alliance dans laquelle il accorde pleinement le pardon et le salut. Alors, cette alliance, c'est comme n'importe quel contrat. Il y a des termes qui la régissent. Et il faut qu'il soit compris et accepté correctement. C'est une alliance qui est faite avec Dieu. Et c'est Dieu qui l'a définie. Et finalement, on n'a pas la capacité de changer cette alliance. On ne peut pas aller dire à Dieu, tiens, moi j'aimerais bien que ça soit plutôt comme ça. Non, non. Dieu a décidé. On ne peut pas négocier son salut. Personne ne peut gagner la faveur de Dieu en redéfinissant sa manière de voir les choses. C'est assez simple. Et puis notre rôle de témoin, c'est de parler d'un échange. Il y a quelque chose qui a été échangé. Alors c'est peut-être un peu plus technique, mais ça fait partie aussi de la bonne nouvelle. Jésus échange notre injustice contre sa justice. Tout ce qui nous sépare de Dieu est retiré de nos vies. Nous sommes comme lavés à neuf. Jésus échange notre honte contre son honneur. Et maintenant, nous pouvons être appelés enfants de Dieu, les fils et les filles du Dieu vivant. Et Jésus échange notre mort spirituelle contre sa vie spirituelle éternelle. Et là, Jésus, il nous offre comme une nouvelle naissance, une nouvelle vie avec Dieu. Jésus ressuscite après être mort sur la croix, et il vit éternellement. Et il nous entraîne dans ce mouvement de vie. Alors effectivement, on se rend compte que notre rôle de témoin, c'est de parler de ces choses et c'est d'offrir un cadeau. On n'est pas du tout dans une démarche commerciale. Donc peut-être on pourrait réfléchir dans notre manière de parler de notre rôle de témoin. Est-ce qu'on a des contacts ? Est-ce qu'on a des clients potentiels à convaincre ? Non, je ne crois pas. On a juste des invitations à donner. Je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons que les personnes à qui on parle soient dérangées par le contenu du message et pas par notre manque de tact ou de sensibilité ou des fois notre brutalité parce qu'on va absolument dire. Il faut se rappeler aussi que nous n'avons pas le pouvoir de convertir, mais uniquement celui d'annoncer et d'avertir. Un autre point fondamental, regardons les mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament. Alors évidemment, tout de suite, on va parler au mot d'évangéliste. Ce mot, il est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. Le mot évangéliser, au moins 50 fois. Alors vous savez qu'on a un problème, nous, parce qu'on ne parle pas la langue d'originale, donc on a une traduction, et qu'il y a des mots, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas été traduits. Le mot baptême, on a repris le mot de la langue grecque et on l'utilise, alors qu'on devrait dire un bain ou une immersion. Évangéliser, ce n'est pas un mot de la langue française, c'est un mot de la langue grecque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire annoncer une bonne nouvelle. Voilà, je ne sais pas pourquoi on n'a pas traduit ça. Annoncer une bonne nouvelle. Prêcher l'évangile, ça veut dire pareil, ça veut dire annoncer. C'est le même sens qu'évangéliser. Alors il y a aussi le mot témoigner. Et lui, il apparaît au moins 70 fois. Et en fait, quand on témoigne, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a expérimenté avec nos sens. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, vous allez raconter ce que vous avez vu. Vous n'allez pas inventer ce que vous ne savez pas. Tout ça pour dire que quoi ? Qu'être témoin, ce n'est pas l'affaire de spécialistes, mais c'est donné à tout le monde. Pas besoin d'avoir les réponses à tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de témoigner, parce que si jamais on me pose une question et que je ne sais pas répondre, qu'est-ce que je vais dire ? Ben, c'est pas grave. Tu répondras rien. Tu dis, ben, je ne sais pas répondre à ta question. Voilà. Peut-être ton orgueil en prendra un coup. Bon, mais c'est pas très grave. Hein ? Et on n'est pas là pour défendre la foi chrétienne non plus, pour prouver qu'on a raison. On est juste là pour témoigner de la vie qu'on a reçue et de la manière dont on la connaît. Alors, un autre point important, l'évangile se transmet par des mots. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir ce matin. Être témoin, c'est mettre des mots sur ce qu'on connaît de Dieu et les dire aux autres. Alors depuis 20 siècles d'histoire de l'Église, il y a toute une sorte de discussion au fil des siècles qui s'est posée là-dessus en se disant « Mais est-ce que c'est nos paroles ?» Ou c'est notre manière de vivre, notre attitude qui doit témoigner le plus fort. Alors là, je crois que la question n'est pas résolue. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de mettre des mots pour expliquer notre attitude, notre engagement de vie, notre amour. L'évangile se transmet avec des mots. Imaginez si Jésus n'avait fait que des miracles et des guérisons et qu'il n'avait jamais dit changer de vie, le royaume de Dieu s'est approché. Ben, je ne crois pas qu'on ait compris le message de l'évangile. On aurait dit, ah ben, c'est super, il y a un mec qui fait des guérisons et des miracles. Allons le voir pour être guéri et avoir des miracles. Mais on a besoin de mettre des mots sur ce que nous exprimons. Paul l'exprime aux Corinthiens. Il dit que Dieu a fait une folie. Cette folie, c'est que l'annonce du royaume de Dieu, elle se fait au travers des mots, par la prédication de la croix, par l'annonce. Aux Romains, il explique la même chose, il dit, dans Romains 10, « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui ? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute. La foi vient des mots. Alors justement, c'est une bonne transition. Si la foi se transmet à travers des mots, quels sont les mots à utiliser ? Quels sont les mots pour le dire ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous les mots pour le dire. Alors je sais que dans certains programmes de témoignages, etc., il y a des versets clés à apprendre, car Dieu t'a tant aimé le monde, etc. Enfin voilà, tout un tas de trucs qu'il faut pouvoir réciter. Et si vous voulez donner un bon témoignage, il faut au moins citer les trois versets dans tel ordre, etc. Mais si on regarde comment Jésus a fait, il n'a pas fait ça du tout. Jésus, le seul indice qu'il nous donne, c'est qu'il s'adapte à la personne à qui il a en face. Lorsqu'il rencontre Nicodème, un chef religieux, un grand théologien, Jésus décide pas du tout de lui parler théologie, mais il lui parle en langage imaginé, hein, tu sens le vent. Et il aborde la nouvelle naissance. Juste après, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine au bord du puits, Jésus met le doigt sur son insatisfaction humaine et la soif que cette personne avait d'une relation profonde et qui a du sens. Et Jésus met l'accent sur la venue du Saint-Esprit qui vient combler cette soif. Un peu plus tard, lorsqu'il rencontre une autre femme, la femme adultère, Mais là, Jésus a une toute autre approche. Il ne la condamne pas. Il la renvoie libre de sa faute. Il lui exprime une démonstration de grâce. Lorsque Jésus rencontre le jeune homme riche, il lui parle ni de la nouvelle naissance comme à Nicodème, ni de la venue du Saint-Esprit comme à la Samaritaine, ni de la grâce comme à la femme adultère. Non, il lui propose un défi. Nous voyons donc que Jésus s'adapte. Et moi, je trouve que ça nous met à l'aise. Parce que finalement, nous aussi, nous sommes là, nous avons la capacité de nous adapter. Quand on rencontre une personne, on sait quoi lui dire en général. C'est tout simple. Nous allons nous adapter. Et en plus, on peut utiliser nos sens, notre bon sens, par exemple, notre intuition, notre intérêt pour la personne. Et nous allons trouver les mots. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer le plan du salut en 3 points ou en 7 points, ou je ne sais pas combien il y en a. À chaque fois qu'on veut témoigner, on a juste à nous adapter à la personne et à dire les mots qui nous semblent, qui lui feront du bien. On voit aussi que dans toutes ces rencontres de Jésus, on sent que Jésus, il lance un processus dans la vie de la personne. Chez la Samaritaine, ce processus, il s'est déroulé en quelques minutes. Mais chez Nicodème, chez le jeune homme riche, chez la femme adultère, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Le processus est parti. Et donc, ça nous donne une indication aussi. C'est qu'on n'a pas besoin de chercher du rendement, on n'a pas besoin de chercher de l'efficacité, d'avoir du résultat immédiat. Non, on laisse le temps au temps. Un autre point, c'est que certains d'entre nous sont très habiles pour trouver les mots tout de suite. Moi, ce n'est pas mon cas. Quand je dois dire quelque chose, j'y pense 10 fois à l'avance. Et ça peut être quelque chose d'intéressant, parce qu'on a tous envie de témoigner à certaines personnes de notre entourage. Et si vous êtes comme moi, pas très à l'aise, ben vous pouvez imaginer à l'avance. Tiens, je vais lui dire ça. Ah non, ça n'a pas marché. Alors je vais lui dire ça. Ah oui. Et puis le jour où ça arrive, ben vous êtes préparé, ben voilà, ça coule de source. Un dernier point, évidemment, puis ça sera ma transition pour finir, c'est qu'évidemment, on n'est pas tout seul, mais le Saint-Esprit vient nous aider. Quel est le rôle du Saint-Esprit ? Et vous serez mes témoins. Et vous connaissez ce magnifique verset, hein ? Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, il y a une relation là qui est indiscutable. Le Saint-Esprit vient nous aider. Alors, je sais qu'il y en a parmi nous qui ont peur du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et je voudrais faire ce parallèle avec les premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Alors peut-être que dans ta situation de témoin, tu te sens un petit peu comme dans une situation de chaos. Tu te dis, oulala, je suis vraiment dans le noir. Comment je vais faire pour témoigner ? Mais Dieu, Jésus nous promet que l'Esprit est avec nous et l'Esprit plane au-dessus de nous. Il a cette capacité de création. Il a cette capacité. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et lui de la lumière. Et nous, nous allons dire les mots du salut et la lumière se fera dans la vie de la personne. Voilà le rôle de l'Esprit. Mercredi soir, nous avions une rencontre de prière tous ensemble ici. Et Sylviane nous a témoigné de quelque chose de personnel que Dieu lui avait dit. Et puis elle se voyait comme, vous savez, les maps mondes là, qu'on a, que les enfants ont pour apprendre l'histoire, la géographie, la grosse boule qui tourne. Et puis, il y a certaines de ces maps mondes, en fait, on peut les brancher, on appuie sur le bouton et elles sont éclairées de l'intérieur. Voilà, Je crois que le Saint-Esprit, il a cette capacité de venir nous éclairer de l'intérieur. Alors pour finir, je reste sur ces quelques mots et vous serez mes témoins. Et je vous propose qu'on fasse un petit peu de conjugaison. On va réviser, faire des révisions. Vous serez mes témoins. Alors quel est le temps du verbe ? Déjà, c'est quoi le verbe ? C'est le verbe être au futur. Et bien voilà, c'est le futur que Dieu voit pour nous. Vous serez mes témoins. La meilleure manière de récolter, c'est de semer. Et la meilleure manière d'arriver, c'est d'essayer. Essayer d'essayer. Voilà, je crois que c'est simple et c'est à notre portée. Merci.